Très bien, on va commencer. Bienvenue et merci de participer à ce cours. Donc, cette leçon est la dernière de cette série consacrée aux résonateurs nanomécaniques dans le régime quantique. Donc, je vous rappelle où on est arrivé la dernière fois. Donc, pour cette leçon 5 de la fois dernière, nous avons commencé à développer le formalisme entrée-sortie qui nous permet de comprendre le refroidissement dans la limite quantique. Nous avions, dans les leçons précédentes, en particulier dans la leçon 4, expliqué le refroidissement dynamique du point de vue classique. Mais dans cette dernière leçon, nous allons examiner le même phénomène sous l'angle quantique. On va reprendre un certain nombre des notions que l'on avait développées dans la leçon 4, mais cette fois-ci en incluant complètement le formalisme quantique. Après la pause, nous avons le plaisir de recevoir Tobias Kippenberg, qui est vraiment un des pionniers de ce domaine. J'ai été très impressionné en particulier par la revue qu'il avait écrite avec Kerry Vahala en 2008, qui est vraiment un article de base dans le sujet. Et il va nous parler tout à l'heure de ses très belles expériences sur les résonateurs en galerie. Les résonateurs, c'est donc aujourd'hui, c'est l'optique, c'est l'optomécanique qui sera à l'honneur. Alors voilà le plan de la leçon d'aujourd'hui. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à l'équation de Langevin, enfin des généralités sur l'équation de Langevin. Aujourd'hui, on va utiliser ces équations pour traiter le système couplé mécanique résonateur électromagnétique. Et là, je m'appuierai sur le modèle qu'on a utilisé la dernière fois, qui est un modèle plutôt à caractère électrique. Donc, nous allons calculer quantiquement, cette fois-ci, la susceptibilité du système et les densités spectrales qui nous permettront de comprendre comment s'effectue le refroidissement. C'est la densité spectrale qui va porter l'information sur la température du système. Et pour le même formalisme qui nous permet de calculer la susceptibilité et la densité spectrale, nous permet aussi d'avoir la matrice de diffusion du système. Donc on va pouvoir comprendre cet échange entre phonons et photons opéré par le couplage entre les deux résonateurs. Et j'illustrerai ce processus ici par des expériences récentes que nous avons effectuées avec un dispositif Josephson qui émule cette conversion entre phonons et photons. Enfin, là, dans notre cas, il s'agit d'une conversion photon-photon à des photons de fréquences différentes, mais le système est rigoureusement identique à ce qui est proposé pour convertir les phonons en photons. Voilà. N'hésitez pas à interrompre ce cours à tout moment. Je le répète encore une fois, vraiment, c'est les questions que vous posez qui font le cours. Ce cours n'existe pas sans vous. Voilà, donc un schéma qu'on a déjà vu un grand nombre de fois. Donc je vous rappelle, on a un oscillateur LC, ça c'est notre prototype d'oscillateur électromagnétique. Ça peut être bien entendu une cavité optique Fabry-Perot, un résonateur type galerie, comme on va l'entendre tout à l'heure. Donc c'est un degré de liberté électromagnétique et l'opérateur d'annihilation correspondant pour ce système est noté à chapeau pour bien montrer ici qu'on a affaire à un opérateur. Hein. Classiquement, ce à chapeau, c'est tout simplement l'amplitude, disons le vecteur de Fresnel, on peut dire, de l'oscillateur, si on l'imagine classiquement. Alors, dans les leçons précédentes, on avait ici un générateur une source de tension qui force le système, une source de tension avec une résistance interne. Cette source de tension et cette résistance est remplacée ici par une ligne de transmission, c'est-à-dire qu'on adopte, on va adopter ce point de vue entrée-sortie où la dissipation est traitée comme une ligne de transmission, un guide d'onde électromagnétique qui a un rôle dual. D'un côté, il modélise la dissipation du système, en effet, l'émission de radiation dans cette ligne du point de vue du résonateur est tout à fait équivalent à une résistance. Donc pour modéliser la dissipation du résonateur LC, cette ligne est tout à fait une résistance tout à fait légale, on peut dire. La condition, c'est que l'impédance caractéristique de la ligne doit être égale à la valeur de la résistance qu'on veut émuler. Et donc, en même temps que la dissipation, cette ligne traite aussi le bruit venant de l'extérieur, le bruit associé à la dissipation par le théorème fluctuation-dissipation. Dans le même formalisme, et c'est ça qui est très, très agréable, c'est que le forçage déterministe, les signaux déterministes sont aussi, peuvent être vus comme, disons, des ondes qui voyagent le long de la même ligne. C'est-à-dire que la puissance de ce formalisme, c'est de traiter dans un même coup dissipation, fluctuation due à la dissipation et forçage. Et on traite ces trois choses qui, dans les équations plutôt habituelles, sont dissociées ici par un même objet et de façon unifiée. C'est ça qui est très puissant et c'est ça qui permet vraiment de traiter correctement ce phénomène de la friction quantique. Alors, de l'autre côté, ici, on a l'oscillateur mécanique, une masse accrochée à un ressort. Là, cette fois-ci, le degré de liberté, c'est un degré de position, X ici, plutôt que Q, là. Le Q était le degré de liberté, c'est la charge sur la capacité. Ici, là, on a le déplacement des armatures du condensateur. Quantiquement, ça correspond à cet opérateur B chapeau. Et exactement comme on a une ligne de transmission électromagnétique ici qui modélise la dissipation, eh bien, du même côté, ici, eh bien, on va avoir un guide d'onde acoustique, en quelque sorte, que l'on peut se représenter, par exemple, comme une corde tendue. Donc, si le ressort ici est accroché à une corde tendue, eh bien, cette corde va emporter les vibrations et fait office de modélise une dissipation, une friction proportionnelle à la vitesse. En même temps, elle apporte le bruit associé à la dissipation et d'éventuels signaux mécaniques. Alors, en pratique, les signaux mécaniques sont difficiles à synthétiser. Dans les expériences que j'exposerai à la fin de ce cours, quand on convertit, disons, d'une fréquence micro-ondes à une autre, et bien sûr, les possibilités de contrôle sont complètement identiques de ce côté-là et de ce côté-là. C'est-à-dire, en pratique, les phonons sont un peu moins faciles à contrôler que les photons. Voilà, donc la correspondance entre le côté électrique et mécanique est le suivant. Donc, on va écrire des équations de Langevin quantique à partir de la tension ici aux bornes de cette ligne et le courant qui circule dans le circuit. Et ces deux variables ont leur équivalent mécanique. Dans ce système, la tension va être équivalente à la force ici sur la masse et le courant qui circule dans ce circuit, c'est la vitesse U de la masse. Voilà, donc on a vraiment... Oui.
C'est peut-être un détail. C'est évident la condition limite que tu choisis sur la ligne mécanique là. Il y a un ventre, un nœud de.
Peut-être j'ai pas très très bien détaillé le. Oui. Bon là c'est mon dessin est peut-être pas très bien réalisé. En fait, il faut imaginer que ce point est glissant ici le long du mur. Mais j'aurais plutôt dû dessiner un anneau coulissant sur un petit poteau, le poteau lui-même étant relié à la masse. En renormalisant un peu les constantes du système, ce système remarcherait très bien, mais évidemment, si on ne suit pas la prescription que je viens de donner, effectivement, la constante de Rader K va être un peu changée. Mais enfin, ici, comme je n'ai pas vraiment expliqué ce qu'étaient K et M, ce n'est pas, mon dessin n'est pas vraiment faux à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est vrai, tu fais. Si on voulait être rigoureux, c'est-à-dire si on voulait dire que K est associé à ce ressort, M est la masse ici, eh bien, la friction fluide, effectivement, il faut des conditions limites libres pour la corde. Il faut qu'elle soit libre de monter et de descendre. Exactement comme ici, la ligne de transmission est ouverte et elle est en série avec le circuit. Oui. Ces petits détails sont sans trop d'importance si on admet qu'on veut bien, disons, rechanger la signification de ce qu'on appelle l'inductance et la capacitance, ici, et la masse et la raideur. Voilà. D'autres questions ? Parce que c'est très important de bien comprendre ce schéma de base. Alors, donc, si on écrit finalement les équations de conservation, par exemple, si on dit que la somme des tensions ici dans cette boucle doit faire zéro et que, disons, la somme des forces sur la masse fait zéro, eh bien, dans le langage quantique, dans le langage de ces opérateurs, eh bien, on obtient ce qu'on appelle cette équation de Langevin quantique, où on a on a la dérivée de l'opérateur A qui s'exprime en fonction de combinaison des opérateurs du système. Et ce qui est important, c'est le terme source dans cette équation. Ici, c'est qui joue le rôle de bruit de Johnson dans l'équation classique qu'on avait écrite la dernière fois. Eh bien, c'est l'onde entrante ici par la ligne de transmission. C'est le bruit ici qui pilote la dynamique bruyante, et à ce bruit est associée la dissipation et finalement on peut voir le théorème fluctuation dissipation par le fait que le coefficient kappa qui intervient ici dans l'amplitude du bruit est le même que celui qui intervient dans ce terme ici dissipatif. Ce terme-là, c'est la partie imaginaire de la fréquence et donc responsable dans cette équation de l'amortissement de A. Donc, vous voyez, de l'autre côté, on a exactement la même structure pour B. La seule dissymétrie à ce niveau, c'est le fait que le couplage mécanique électromagnétique et de la forme, amplitude du mouvement de X, c'est-à-dire ici c'est X, fois ici, X est couplé au nombre de photons dans le résonateur électromagnétique. Voilà, donc en fait, une fois qu'on a réussi à écrire ces équations de Langevin couplées, eh bien, finalement, il n'y a plus qu'à tourner la manivelle, en quelque sorte. On peut calculer absolument ce qu'on veut. Et l'intérêt de ce système, c'est qu'il est essentiellement entièrement soluble. On peut poser toutes les questions qu'on veut au système et la résolution de ces équations permet d'obtenir la réponse. Et c'est quand même un système très de physique très puissante, puisque, par exemple, ces équations incluent l'équation incluent tout le phénomène de refroidissement dynamique, où en envoyant un signal déterministe électromagnétique à la bonne fréquence et à la bonne amplitude ici, eh bien, on peut refroidir le système mécanique. Voilà. Alors, quelques indications. Je vais être assez rapide parce que finalement, on a déjà fait ces calculs dans l'examen classique du système. On va les reprendre en quelque sorte là, dans la version quantique. Là, je pense que le point difficile, ce qui n'est pas toujours très bien apprécié quand on résout ces équations, c'est le rôle très particulier joué par le champ entrant ici. Cet opérateur que je note ici à tilde in, donc c'est l'opérateur du bruit qui entre dans le système. C'est un peu aussi un opérateur de type annihilation, mais c'est un opérateur qui ne décrit pas un nombre. Enfin, le carré de cet opérateur n'est pas un nombre sans dimension. Le carré de cet opérateur, c'est un flux. Hein? Donc, c'est le flux du bruit qui est entrant. Alors, donc, c'est, disons, la. On peut voir cet opérateur qui évolue au cours du temps comme la transformée de Fourier des composantes du bruit entrant, mais pris uniquement aux fréquences positives. Pourquoi les fréquences positives? Eh bien, parce que à cause du caractère annihilant de cet opérateur décrit, disons, les processus d'annihilation. Et donc, dans le spectre de Fourier, ça correspond ici aux fréquences positives. Je vous rappelle que cet opérateur A chapeau, qui est en fait une version dimensionnelle, non dimensionnée, du champ dans la ligne. Le champ dans la ligne, lui, est un opérateur hermitien. Et l'opérateur petit A chapeau étant, disons, dérivé d'un opérateur hermitien, eh bien, lui, son dagger est égal à lui-même. Donc, on sépare ici dans A tilde les composantes positives du bruit, et, disons, A tilde de T dagger contient les fréquences négatives, hein, celles qui correspondent au processus inverse. C'est-à-dire que si ici on annihile des photons qui entrent, eh bien ici on les crée. Voilà. Donc il faut bien comprendre la mécanique de ces opérateurs pour faire ces calculs. Et là, je rappelle un certain nombre de formules utiles qui servent dans les calculs, et notamment le rapport qu'il y a entre ces opérateurs à tilde et les opérateurs à chapeau. Ce qui est important, c'est qu'à partir de la connaissance de ces opérateurs ici, eh bien, on peut connaître le flux de photons dans la ligne. Là, j'indique boson parce qu'en fait, ces considérations valent aussi bien pour les signaux électromagnétiques, pour les photons, ou pour les phonons. Donc, si vous voulez, par exemple, connaître le nombre de photons incidents par unité de temps sur votre système, eh bien, il vous faut faire la somme de la densité spectrale correspondant à ces opérateurs ici à tilde et l'intégrer sur toutes les fréquences. Voilà, c'est donc le moins ici provient du fait que dans la densité spectrale est définie à partir de la fréquence de ce premier opérateur et non pas le second. Et donc pour bien traiter la densité spectrale de A tilde et non pas A tilde dagger, eh bien, il faut que oméga 1 ici soit négatif. Au-delà de cette mécanique des opérateurs, c'est important de bien comprendre ce résultat, c'est-à-dire qu'on sait a priori quelle est la densité spectrale du bruit entrant. Hein. On connaît cette densité spectrale du bruit entrant. Elle a deux parties. Elle a une partie thermique qui est donnée par cette combinaison, par ce cotangente hyperbolique. Le plus 1 ici correspond distinguer les fréquences positives des fréquences négatives, on aura une différence d'un photon entre la densité spectrale à fréquence positive et à fréquence négative. Ça, c'est parce que la mécanique quantique sépare, disons, distingue les processus d'absorption et d'émission. Et donc, voilà la température qui s'exprime dans cette partie de la densité spectrale. Et dans cette autre partie, eh bien, on a le flux de photons déterministes, les signaux de forçage qui ont, dans la densité spectrale, un pic delta. Et la constante devant le pic delta eh bien, porte le flux de photons. Si vous voulez vous familiariser avec ce formalisme, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un petit exercice ici qui calcule pour un unique oscillateur le nombre de photons dans l'oscillateur. On aboutit ici à cette ligne qui permet de calculer le nombre de photons dans l'oscillateur, donc dans le degré de liberté stationnaire. Ici, c'est A croix A, c'est le nombre de photons dans l'oscillateur. On l'exprime sous la forme de cette intégrale ici qui porte sur le flux entrant. Et à partir de l'expression précédente donnant le flux entrant à l'équilibre, ça permet de retrouver la population thermique des photons dans l'oscillateur. C'est-à-dire qu'en fait, on a retrouvé le théorème d'équipartition de l'énergie par simplement ces formules de diffusion dans le formalisme entrée-sortie. Donc, ces petits exercices permettent d'appréhender ce formalisme extrêmement puissant. Voilà. Donc, on va tourner la manivelle. On reprend donc ces équations de Langevin. Et là, le premier travail que l'on va faire, c'est de linéariser le système autour de son point de fonctionnement. Ça, c'est une étape qu'on avait vue classiquement. On la refait quantiquement, c'est-à-dire que l'opérateur du champ entrant, ici, on va le décomposer entre sa partie déterministe, qui est le forçage. Donc, alpha va représenter l'oscillation entrante qui va forcer le système. On va plutôt par la suite parler non pas du alpha entrant, mais du alpha, de l'état cohérent induit dans l'oscillateur. C'est un point de vue qui correspond plus opérationnel. On ne sait pas exactement, on ne peut pas exactement mesurer avec précision le nombre de photons par seconde qui entrent dans le système, mais par contre, on peut très bien diagnostiquer le nombre de photons qui est en régime permanent dans l'oscillation, dans l'onde stationnaire. Donc, par la suite, je parlerai plutôt en termes de alpha ou du nombre de photons dans l'oscillateur électromagnétique plutôt que du flux de photons entrant. Dans cette décomposition, ici, on voit apparaître un opérateur qui décrit les fluctuations du champ entrant. Alors, ces fluctuations, on peut les voir comme les modulations de cette fréquence de forçage. Le champ qui va être mis en correspondance avec les phonons, c'est pas les photons du système, de l'onde de forçage, c'est ses fluctuations, c'est sa modulation, c'est la modulation du rayonnement électromagnétique qui va être couplé aux phonons. Et donc, par la suite, ce delta ou le delta A, si je parle des photons à l'intérieur du résonateur, décrivent une modulation. La modulation, vous pouvez imaginer une modulation de phase ou d'amplitude. Il y a 2 degrés de liberté dans une modulation. Et nous allons voir ça, nous allons voir ces 2 degrés de liberté dans le transparent suivant. Voilà, donc on a finalement réécrit les équations de Langevin. Le changement, c'est que maintenant, elles sont devenues parfaitement linéaires. il y a la dérivée de cet opérateur par rapport au temps est une fonction qui est linéaire par rapport à tous les autres opérateurs. Donc il n'y a plus de couplage non linéaire entre opérateurs. Donc il est bien évident qu'ici on arrive à un système exactement soluble puisqu'il est l'équivalent de deux équations linéaires couplées dépendant du temps, et on sait que ce genre de système est entièrement soluble. Donc, oui. Le grand oméga ou petit? Le grand oméga ici, dans mes notations, signifie la fréquence de forçage. Ah, alors là, donc cette modulation delta A tilde ou delta A de T, c'est un signal qui est en fait complexe. Alors ce signal complexe, il porte une information à la fois sur une modulation de phase et sur une modulation d'amplitude. Hein, très grossièrement, on peut dire que la partie réelle ici de delta A, c'est la modulation d'amplitude, alors que sa partie imaginaire, c'est la modulation de phase. Voilà comment ça se passe. Hein. Il y a deux signaux de modulation qui sont portés par delta A. On va reprendre, ça va être important cette considération. Notez que là, je note en vert, un peu la couleur de mon laser, cette modulation. On va voir, je vais employer deux autres couleurs pour les deux degrés de liberté de modulation. Oui ? Ah, alors, bon, cette... Donc là, c'est un peu un artifice, cet état. Voilà, pour simplifier les formules, je vais considérer que A oscille, le forçage, en fait, est décrit par cet alpha qui va être une quantité réelle et positive par la suite. C'est-à-dire que normalement, logiquement, j'aurais dû, ce alpha pourrait être complexe. J'impose le forçage de l'extérieur et il y a un déphasage entre l'onde qui arrive de l'extérieur et l'oscillation à l'intérieur de l'oscillateur. Lorsque la fréquence de forçage n'est pas égale à la fréquence propre d'oscillation, il y a un déphasage entre l'excitation et l'onde qui existe dans l'oscillateur. Pour éviter de traiter ce déphasage, cette phase de l'onde à l'intérieur de l'oscillateur, j'impose un θ, une phase extérieure dans l'onde. C'est-à-dire, en gros, ça revient à décaler l'origine du temps dans cette équation pour que le forçage produisent une onde, un vecteur de Fresnel dans le résonateur électromagnétique, un résonateur de Fresnel qui est un vecteur de Fresnel qui est orienté suivant l'axe des x. Je peux toujours considérer que j'ai changé la phase de l'onde de forçage à l'extérieur pour que cette condition soit toujours réalisée. C'est tout simplement pour ne pas alourdir les expressions. Elles sont suffisamment compliquées. Comme ça, donc, cette complication serait artificielle. Donc, dans la suite, alpha ici est une grandeur tout simplement positive. Voilà. Donc, alors, avec ce changement de variable, cette linéarisation autour du point de fonctionnement, on arrive à un schéma finalement extrêmement simple. On a deux oscillateurs effectifs. Donc l'oscillateur des phonons. Alors B en fait a été aussi modifié légèrement parce que la pression de radiation a changé l'origine de la position d'équilibre de l'oscillation. Mais j'ai gardé quand même le même B pour le même opérateur pour décrire cet oscillateur acoustique modifié. Du côté ici électromagnétique, il faut quand même bien insister sur le fait que c'est les modulations ici de la fréquence du laser ou de la fréquence du générateur micro-ondes que l'on considère. C'est-à-dire qu'un phonon qui va arriver de la gauche, qui va exciter cet oscillateur, va se transformer non pas il n'excite pas vraiment l'oscillateur, il excite une modulation. C'est-à-dire que, par exemple, il va convertir un photon rouge qui arrive en un photon bleu, ou vice-versa. Voilà, donc c'est voilà les degrés de liberté qui sont en correspondance. Degrés de liberté mécanique ici et modulation du forçage du résonateur électromagnétique. C'est très, très important de comprendre ce qui se passe. Alors, les fréquences de ces deux systèmes sont là, ici, la fréquence propre du résonateur mécanique, et ici, la fréquence effective de ces modulations, c'est en fait le décalage en fréquence entre la fréquence de forçage et la fréquence propre du résonateur. Voilà. Et pour avoir un refroidissement efficace, il va falloir ajuster ce décalage en fréquence optique ou électromagnétique et le rendre pour que, eh bien, les excitations passent librement d'un système à l'autre. Vous comprenez bien que les deux oscillateurs doivent être à résonance, c'est-à-dire que ce décalage en fréquence doit être proche de la fréquence de résonance mécanique. Donc, on a donc deux oscillateurs effectifs, hein, couplés, et couplés par une constante effective, qui est la constante G3 d'origine, la constante qui décrit le couplage non linéaire, mais multipliée par la racine du nombre de photons qui excite le résonateur électromagnétique. Donc, vous voyez, c'est un système très puissant parce que ajustable de l'extérieur. On a un système, on a deux oscillateurs couplés, rapides, hein, puisque ici, on peut avoir des centaines, voire des gigahertz, et ici, on a des fréquences optiques. Et ce couplage peut être modulé in situ en changeant le nombre de photons. Ce nombre de photons, ici, peut être énorme, hein, il peut être des milliers, voire des millions. Donc, on peut renforcer beaucoup cette fréquence de couplage qui, de façon nue, est quand même très faible. Voilà. Alors, deux paramètres importants aussi dans ce système, c'est le taux avec lequel ce résonateur mécanique perd des phonons. Donc, ça, c'est la constante gamma. Et ici, kappa. Donc, le taux de relaxation électromagnétique, c'est la constante qui décrit la rapidité avec laquelle on perd des photons de ce côté-là. Donc, vous pouvez vraiment, à ce stade, vous imaginer deux pendules effectives, deux pendules couplées, amorties, qui sont amorties chacun, et qui sont aussi dans lesquelles on amène des signaux. Là, ici... Du côté mécanique, c'est essentiellement les photons, les phonons thermiques, les phonons du bain thermique dans lequel est placé l'oscillateur mécanique. Et puis, du côté électromagnétique, c'est un peu plus puissant, puisqu'il y a bien sûr les excitations thermiques électromagnétiques, mais aussi des signaux que l'on peut amener de façon beaucoup plus commode là, du côté électromagnétique. Voilà. Alors, une notation qui va nous servir par la suite. Donc, on va noter le nombre de photons qui arrivent par unité de temps, par unité de bande passante. Hein. Ça va être valeur moyenne de n t. Et c'est en fait, ce nombre est tout simplement kt divisé par l'énergie d'un quanta mécanique. Voilà. Donc, si ici la fréquence mécanique est de quelques mégahertz et qu'on est à des températures de quelques centaines de millikelvin ou quelques kelvin, Ce nombre ici est assez grand. Hein. Dans toutes les expériences, il varie en général entre 10 et 100, ou même voire plus. Ce vers quoi ce système se bat, c'est vraiment de réduire ce nombre. Donc le flux de phonons thermiques qui arrive est assez important. Il faut combattre ce flux de phonons thermiques qui arrive dans ce système en ouvrant ce couplage au maximum de façon à ce que les phonons ici soient convertis en photons et puis sortent de ce côté-là avant de réchauffer trop rapidement ce système. Voilà le principe du refroidissement dynamique. Si cette constante kappa est beaucoup plus rapide que cette constante gamma, et si vous avez un couplage suffisamment fort, eh bien, les phonons thermiques qui arrivent dans cet oscillateur mécanique repartent très rapidement. Et donc, vous pouvez comme ça maintenir cette température mécanique très basse. Alors, pourquoi le système n'est pas symétrique? Pourquoi finalement, après tout, les photons qui arrivent ici sont aussi en équilibre thermodynamique? Ils voient en fait souvent le même système, mais en fait le même bain. Mais ici, ces photons thermiques sont beaucoup plus grands. Donc ce rapport KT sur H bar oméga E est beaucoup plus petit. Donc même quand le résonateur électromagnétique et le résonateur mécanique sont à la même température, enfin voient un bain plus exactement à la même température, eh bien, il y a essentiellement zéro photon qui arrive ici, alors qu'ici, vous pouvez avoir des centaines de photons qui arrivent dans chaque mode. Voilà l'idée. Donc, c'est là où l'analogie entre les pendules couplées s'arrête. Les pendules couplées sont en quelque sorte, qui ont des fréquences identiques, vont avoir des photons ou des phonons, si vous voulez, de même taille. Et donc, si on favorise le passage de l'un vers l'autre, eh bien, on ne gagne rien du tout, puisque finalement, les phonons vont aller dans les deux sens. Ici, on bénéficie d'une asymétrie, parce que ces photons de modulation, ici, sont beaucoup plus gros, en quelque sorte, ils ont une énergie beaucoup plus grande, et donc, il n'y a pas de ce côté-là. On va essentiellement avoir le calme parfait, donc pas de bruit qui arrive de ce côté-là. Donc on va être capable de diluer, si vous voulez, le bruit arrivant du côté mécanique et de le diluer dans le système électromagnétique. Alors tout ça se traduit dans ces équations qui... où on passe ici de nos équations linéaires temporelles aux équations réécrites maintenant de manière fréquentielle. Elles sont plus pratiques à résoudre. Vous savez que quand on passe en transformée de Fourier, on passe d'équations différentielles à des équations algébriques. Et c'est là où va intervenir une subtilité dans la résolution de ce système. C'est là où... Donc, je vais répondre à la question de Michael, où finalement, il y a en fait 2 degrés de liberté pour ces photons de modulation. Ici, on voit apparaître dans cette équation, ici, en fait, delta A et delta A Dagger. Et ces deux composantes, en fait, ne correspondent pas au même type de modulation. Donc, ce qui est indiqué ici. En fait, il va falloir séparer la modulation à fréquence positive de la modulation à fréquence négative. En fait, ce delta A Dagger, on peut le voir ici comme une modulation à fréquence négative. Alors, le oméga ici, ce n'est pas une fréquence qui part de zéro, c'est une fréquence, ça décrit un écart en fréquence à partir de la fréquence de forçage. Et en fait, donc, ces deux termes ici vont correspondre aux bandes latérales bleues et rouges de part et d'autre du signal de forçage. Et vous allez voir dans un instant, de manière graphique, ce que je veux dire. Avant qu'on passe à ces dessins, j'indique ici que j'introduis ces susceptibilités. Ça, c'est la susceptibilité électromagnétique. Ça, c'est la susceptibilité mécanique. Elle donnerait, s'il n'y avait pas de couplage entre les deux oscillateurs, elle donnerait en gros leur rôle est de vous donner l'amplitude de l'onde stationnaire en fonction de l'onde entrante. C'est le rôle de ces susceptibilités, c'est qu'elles donnent la réponse du système oscillant stationnaire en fonction de ce qui arrive à l'entrée. Elles sont appelées nues, c'est des susceptibilités nues parce qu'elles vont être renormalisées par le couplage. Alors, donc, en fréquence, voilà comment se situent les choses. Donc, cette première ligne décrit la densité spectrale des signaux entrants par les lignes de transmission. Et ça, c'est la densité spectrale. Cette ligne ici décrit la densité spectrale des signaux stationnaires, c'est-à-dire le contenu des oscillateurs. Alors, les équations précédentes couplent finalement ces densités spectrales entrantes aux densités spectrales stationnaires. Donc, cette susceptibilité nu, ici, c'est un lien direct. Vous avez ces liens, il y a un processus de feedback, de rétroaction. Ces liens violets décrit le couplage mécanique électromagnétique. Et vous voyez que, disons, si on prend cette fréquence mécanique positive, ce oméga 0, c'est une des fréquences d'excitation mécanique, et là, je l'ai choisi positive. On aurait pu la choisir négative, c'est le cas de ces flèches en pointillés, ici. Et vous voyez que cette fréquence mécanique est couplée à deux types d'excitation, des excitations bleues, qui se font, c'est une modulation à plus grande fréquence que la fréquence de forçage. Et elles sont, cette excitation est aussi couplée à des bandes rouges qui se font à fréquence plus petite que la fréquence de forçage. Alors ça, dans le langage Raman, ça correspond finalement aux raies anti-Stokes et Stokes. C'est-à-dire que un photon, mettons, qui arrive ici à oméga, imaginons un photon vert, eh bien, peut perdre de l'énergie et donc emporter l'énergie de ce photon. Ou au contraire, il peut gagner de l'énergie, ce qui correspond à l'autre type de processus. Donc, vous avez donc dans ce couplage phonon-photon deux canaux. Ces deux canaux, on peut voir ça un peu plus clairement sur cet autre diagramme, où plutôt que d'avoir les fréquences, disons, de manière horizontale, elles sont plutôt verticales. Donc, vous avez cette onde entrante mécanique qui peut aller tout droit et vous donner l'excitation de l'oscillateur mécanique. Donc, ça, c'est cette susceptibilité notée BB. Mais on doit lui adjoindre, enfin, ce processus direct est accompagné de deux processus indirects qui, par ces boucles ici de feedback, et qui font intervenir justement cette émission. Alors, ce processus avec la bande bleue, ça va correspondre à une émission de l'énergie du phonon donc dans ce canal bleu, ou encore anti-Stokes. Et ici, cette autre boucle correspond plutôt à l'absorption d'un photon qui serait dans cette bande rouge. Donc, voilà. Donc, en fait, cette boucle ici va décrire plutôt des processus de chauffage des phonons par les photons. Et ici, cette boucle-là va décrire plutôt des processus de refroidissement des phonons par émission de photons. Donc, vous voyez, il y a deux. C'est une subtilité assez intéressante et importante, c'est qu'il y a deux processus en compétition, un processus de refroidissement et un processus d'échauffement. Donc, ce processus ici augmente la friction, ce processus diminue la friction, donc ce processus est plutôt un processus amplificateur, alors que ce processus, c'est plutôt un processus d'amortissement. Amplification ou amortissement sont en quelque sorte contraires. Alors, heureusement, on va voir qu'on peut dissymétriser ces deux processus en réglant la fréquence de la pompe correctement. On peut privilégier nettement ce canal bleu, le canal de refroidissement par la bande latérale bleue, par rapport à l'excitation du système par le canal rouge. On peut vraiment changer, disons par des ordres de grandeur, l'amplitude de ces deux processus, l'un par rapport à l'autre. Bien sûr, si on règle la fréquence d'excitation du système pile à la fréquence de résonance électromagnétique, les deux processus vont se compenser exactement. On va amplifier en même temps qu'on amortit, et finalement, le résultat net, c'est zéro. C'est ce qui se passait, par exemple, dans la détection homodyne qu'on a discuté il y a, disons, trois leçons. Alors, comment on résout ces systèmes? Bon, c'est pas très sorcier. On a ces boucles de feedback, hein, c'est un feedback autonome dans le système. Et eh bien, si vous connaissez la théorie du feedback d'un amplificateur, eh bien, vous savez très bien calculer la susceptibilité habillée, la susceptibilité directe, là, habillée par cette boucle, à partir des susceptibilités des composants. C'est cette formule bien connue. Donc, en fait, on applique tout simplement cette formule pour avoir l'amplitude de l'oscillation de l'oscillateur mécanique en fonction de toutes les entrées. Et cette formule ici de la susceptibilité habillée, ça n'est rien d'autre que cette fameuse formule du feedback. Donc ça, c'est un peu un langage de la théorie des champs où, disons, l'inverse de la susceptibilité habillée, c'est l'inverse de la susceptibilité nue plus la self-énergie. Voilà, dans le langage de la théorie des champs, la théorie de, finalement, réexprimer la théorie de l'ampli-op avec contre-réaction. C'est exactement la même chose. Donc voilà, alors quand on fait ces calculs, on a cette susceptibilité habillée. Donc si on n'avait pas cette partie du dénominateur, on aurait la susceptibilité nue. Et le bouton que l'on a dans ce système, c'est ce coefficient C, c'est le couplage effectif sans dimension, hein, c'est la constante que l'on a, disons, de couplage électromécanique fois le nombre de photons dans le... Alors, cette couplage, ce coefficient-là est au carré, ici. On a le nombre de photons de forçage divisé par le produit des amortissements. Donc, vous voyez, cette constante est sans dimension. C'est le couplage de ces oscillateurs effectifs. On l'appelle aussi, des fois, coopérativité. Ça décrit le fait que le degré de liberté mécanique n'est plus seul. Il est maintenant associé au degré de liberté électromagnétique, donc il y a coopération entre les systèmes, le système mécanique et le système électromagnétique. Alors, deux termes, hein, un terme ici d'amortissement et un terme de chauffage. Alors, ce terme d'amortissement, il va être résonnant parce qu'on va choisir cette fréquence delta, le décalage en fréquence de la pompe par rapport à l'oscillateur électromagnétique, on va le choisir égal à moins oméga m, et donc qui va se retrouver résonnant comme celui-ci. Et si on est suffisamment décalé en fréquence, si la fréquence mécanique est suffisamment grande, eh bien ce terme sera anti-résonnant et pourra être très faible. En tout cas, là, j'ai donc ça, c'est tout simplement le graphe du module hein, de cette susceptibilité habillée en fonction de la fréquence. Vous voyez, quand la coopérativité est très faible, on a la susceptibilité lorentzienne habituelle hein, d'un oscillateur forcé. Et lorsqu'on augmente le couplage, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente le nombre de photons de pompe, eh bien, cette susceptibilité s'élargit. Et ça, c'est normal, puisqu'on augmente l'amortissement. Donc, on va avoir une lorentzienne plus large. Mais on voit que si le couplage est très grand, eh bien, ces deux oscillateurs couplés, finalement, vont former des deux nouveaux oscillateurs effectifs, hein, une combinaison liante ou antiliante, on dirait en chimie. On a donc deux modes. On a finalement on peut dire que le système n'est plus mécanique ou électromagnétique, mais on a une combinaison, des modes propres sont des combinaisons linéaires des deux. Voilà. En même temps, vous voyez que l'intensité, la surface sous la courbe, ici, s'amoindrit, devient de plus en plus faible. Ça, c'est l'effet dominant de l'amortissement. Hein. Donc, c'est finalement... Les phonons qu'on va mettre dans ce système sont en train de fuir par les photons, et ça, c'est la conséquence de ce déclin, cette décroissance de l'air. Enfin, c'est d'ailleurs plus spectaculaire quand on porte le carré de la susceptibilité plutôt que sa valeur absolue. Voilà. Alors, pour comprendre cette... finalement, ce dédoublement de l'arrêt dû à l'intensité du forçage, bon, il faut tout simplement regarder les pôles de cette susceptibilité. Alors, quand on calcule les pôles, en fait, on peut laisser tomber la partie anti-résonante qui va être très faible. Elle ne modifierait que très, très faiblement les résultats et son influence qualitative n'a peut être complètement négligée. Alors si on change un peu les notations, hein, j'appelle Z la fréquence complexe, l'écart en fréquence à la résonance, et là j'ai changé un peu la notation sur les amortissements, c'est la moitié du taux d'amortissement qui intervient plutôt dans ces formules. Donc, on peut calculer les pôles et les résidus de cette fonction de réponse. Et le schéma, qualitativement, c'est le suivant. Donc, quand le couplage ici est très faible, on commence par deux pôles qui sont réels. Donc, on a des fréquences d'amortissement. Donc, les fréquences d'amortissement nues électromagnétiques et mécaniques. Hein, la fréquence d'amortissement électromagnétique est plus grande que la fréquence d'amortissement, le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement électromagnétique, excusez-moi, est plus grand que le taux d'amortissement mécanique. Mais lorsqu'on augmente le couplage, ces deux pôles ici se rapprochent, ils coïncident à un amortissement critique, un couplage critique, pardon, et puis après ils se séparent sur l'axe imaginaire, c'est-à-dire que on a ce phénomène de dédoublement de fréquence. Hein, ça, c'est un comportement bien connu des oscillateurs couplés. Rien de bien mystérieux ici. Ce qui est subtil, c'est que l'oscillateur électromagnétique, c'est un oscillateur effectif. Traduit une modulation. C'est l'amortissement de cette modulation que l'on voit ici. Du point de vue des résidus, rien de très spectaculaire se passe. C'est-à-dire que l'intensité de ces pôles, ces pôles tout simplement se divisent en deux. Le pôle se divise en deux et, disons, quand le couplage est très fort, ils vont emporter chacun un quart du poids d'origine. On a au maximum une division par deux du poids de la résonance.